Bienvenue à tous. Merci de participer à ce cours. Alors, ce cours fait suite à celui donné en 2008 qui portait sur les circuits et les signaux quantiques. Et cette année, nous allons nous intéresser plus particulièrement au processus d'amplification dans la limite dit quantique, c'est-à-dire dans la limite où les signaux à mesurer vont contenir de l'ordre d'un photon, un photon à la disons aux fréquences micro-ondes, c'est-à-dire en disons quelques gigahertz. Alors, l'intérêt de ce processus, pourquoi on va s'intéresser à ce processus, c'est que récemment, de nouveaux amplificateurs ont vu le jour qui permettent d'amplifier ces signaux très faibles en rajoutant le minimum de bruit demandé par la mécanique quantique. C'est-à-dire que le processus d'amplification va modifier de façon minimale l'information qu'on va extraire du système. Alors, ça a plusieurs intérêts. D'abord, c'est un intérêt évidemment pratique, puisque si on sait amplifier les signaux avec un minimum de bruit, on peut réaliser de meilleures expériences. Cela va de soi. Mais un autre intérêt de ces amplificateurs, c'est qu'ils permettent de décortiquer véritablement le processus de mesure, qui en mécanique quantique est quand même subtil, et de comprendre finalement d'où vient le bruit dans la mesure, dans une mesure quantique. Un autre intérêt de comprendre ce processus d'amplification en détail est qu'on peut l'utiliser par un processus de rétroaction pour préparer des états d'un système quantique qui vont être fortement intriqués, fortement hors équilibre, des états qui seraient difficiles de préparer par d'autres méthodes. En particulier, il y a des états absolument passionnants. C'est des états dont j'ai discuté dans le cours de l'an dernier. C'est les états qui permettent de stabiliser un bit quantique logique et en quelque sorte de lui donner une durée de vie essentiellement quasiment infinie, de donner en fait à la cohérence plus exactement de ce bit quantique un temps de vie infini. C'est ce qu'on appelle la correction d'erreur quantique. Elle peut se faire par une série de portes discrètes qu'on avait vues l'année dernière, mais elle peut se faire aussi par un processus continu qui est semblable à un processus de refroidissement des atomes, dans lequel on va préparer certains états robustes à la décohérence par une méthode de contre-réaction. Voilà. Donc, dans cette première leçon, je vais pas répondre à toutes les questions concernant les amplificateurs. Bien sûr, je vais essentiellement poser les problèmes. Et là, j'ai fait un peu une liste de ce que je vais aborder aujourd'hui. Donc, je vais reprendre quelques idées que j'avais développées en 2008 et indiquer finalement le lien qu'il y a entre la mesure, le bruit et l'amplification. Je parlerai brièvement du théorème de Caves qui indique une limite au rendement d'un amplificateur de type ampli opérationnel. Je discuterai assez brièvement cette question un peu importante qu'on va reprendre dans le cours, qui est le lien entre les amplificateurs, disons, comme on les conçoit traditionnellement, et les photomultiplicateurs. J'essaierai tout au long de ce cours d'essayer de faire un parallèle entre notre domaine de la physique mésoscopique et celui de l'optique quantique, des domaines qui sont maintenant très fortement interpénétrés. J'indiquerai le principe de ces nouveaux amplificateurs, qui sont des amplificateurs paramétriques basés sur l'effet Josephson. Et puis, je donnerai surtout quelques exemples concrets d'utilisation de ces nouveaux amplificateurs, ce qu'ils apportent dans la mesure. Et donc, j'introduirai cette idée de rétroaction et de préparation d'état par la mesure. Alors, c'est un programme peut-être un peu long. J'ai réalisé au dernier moment que j'allais sauter quelques transparents. Et surtout, je voudrais vous faire une recommandation. N'hésitez pas à interrompre ce cours. En fait, ce cours n'existe que si vous intervenez. Si je suis le seul à parler, en fait, ce cours n'existe pas. Donc, j'accueille... toujours les questions et surtout aussi évidemment il ne va pas manquer de se produire des erreurs dans ce que je vais dire ou dans les transparents, donc je vous serais très reconnaissant de me les signaler et vraiment ce cours s'enrichit toujours avec l'apport des auditeurs. Voilà, alors on va commencer très simplement. Je voudrais introduire l'idée d'expérience de transport. Bon, les expériences de transport sont des expériences de base de la physique mésoscopique, mais en fait de nombreuses autres branches de la physique. Et ces expériences sont basées toujours sur le principe suivant. On a un échantillon. On le soumet à un signal sonde. Bon, ici, j'ai pris l'exemple d'une source de courant, et on détecte une réponse de l'échantillon, un signal ici qui va être, par exemple, une tension. Alors, là, en général, le signal sonde est un signal qui, disons, contient essentiellement une fréquence. Ce signal essentiellement monochromatique est quand même fini dans le temps, son étendue finie dans le temps est définie par une fonction fenêtre qui donne l'enveloppe de ce signal quasiment sinusoïdal. Et donc, on va détecter la réponse de l'échantillon à la fréquence de la sonde en multipliant le signal que l'on reçoit par, finalement, le signal sonde. Donc, le traitement que l'on effectue, c'est l'acquisition d'un signal en sortie de l'échantillon et sa multiplication par le signal sonde, ce qui permet donc de mesurer la réponse du système à une certaine fréquence. Alors, on peut donc multiplier le signal reçu par le signal sonde et le signal sonde, disons, déphasé de pi sur 2, ce qui permet de définir la réponse en phase et hors phase de l'échantillon. Donc, si le système est linéaire, ceci permet de mesurer l'impédance, ici, par exemple, la transimpédance entre le port 1 et le port 2. Ça, c'est la mesure de base du transport. Après, cette réponse, ce coefficient de transport est étudié en fonction de plusieurs paramètres. Alors, d'abord, on peut soumettre l'échantillon à un forçage. On peut envoyer une autre fréquence pour mettre l'échantillon dans un état hors équilibre. On peut aussi appliquer à l'échantillon différents champs, champs magnétiques, champs électriques, ou faire varier des paramètres thermodynamiques comme la température. Donc voilà ce qui constitue une expérience de transport. Je pense que vous êtes pour la plupart familiers avec cette notion. Alors quelques exemples concrets de ce type d'expérience en physique mésoscopique. Donc, on peut faire ces expériences de transport électrique sur des systèmes comme les jonctions tunnels, comme les contacts ponctuels dans les gaz d'électrons bidimensionnels ou même les contacts ponctuels atomiques où le courant finalement passe à travers un seul atome. On peut aussi, par le même principe, sonder la réponse magnétique d'un échantillon. Récemment, il est apparu des variantes dans ce genre de mesures où on ne se contente pas d'étudier finalement des systèmes de microscopiques comme ceux dont je viens de parler, mais des systèmes dans lesquels les degrés de liberté sondés par ces expériences de transport sont véritablement mésoscopiques. Donc ce sont des expériences où on va sonder des atomes artificiels, où le circuit sondé se comporte comme un atome. Donc ça, c'est l'exemple des qubits supraconducteurs qui, par l'intermédiaire d'un résonateur micro-ondes, sont sondés par, finalement, la réponse de ce résonateur à un certain signal sonde. Encore plus récemment, il est apparu un nouveau type de système, des systèmes électromécaniques, dans lesquels on a un résonateur nanomécanique. Donc là, il s'agit de systèmes quantiques véritablement mécaniques, où la mécanique quantique est de la vraie mécanique. La détection de ce système se fait en couplant la masse du résonateur mécanique à la capacité d'un résonateur micro-ondes. Et on sonde finalement ce système nanomécanique par une méthode un peu semblable à celle des qubits. Voilà le genre d'exemple de système mésoscopique soumis aux expériences de transport qui sont finalement des variantes des méthodes traditionnelles de la détection synchrone. Ce qui s'est passé finalement ces dernières années, c'est que les fréquences utilisées dans la détection synchrone sont passées de quelques kilohertz, voire le mégahertz, à plusieurs gigahertz, ou même des fois plusieurs dizaines de gigahertz. Alors, l'expérience de transport est un exemple. Les expériences de transport sont un exemple particulier. Le signal qui vient de l'échantillon peut être traité d'une autre façon. Ce qu'il faut voir, c'est que, contrairement à ce que j'ai présenté de manière simplifiée, le signal recueilli contient en général la réponse au signal sonde, mais contient aussi un bruit provenant de l'échantillon. Donc en général, on va détecter la superposition d'un signal déterministe et d'un signal stochastique. Ce signal stochastique, il a un bruit qui vient de trois origines. D'abord, un bruit qui peut être intrinsèque au signal de sonde, un bruit qui peut provenir de l'échantillon et un bruit qui vient du traitement du signal en aval, finalement, de l'échantillon. Alors, c'est là où intervient l'amplificateur. On va essayer, avec un amplificateur, d'éliminer le bruit provenant du traitement. Le traitement des données, cette multiplication dont j'ai parlé, ne peut se faire qu'avec des signaux de relativement haute énergie. Et donc, le but de l'amplificateur, c'est d'accroître l'énergie du signal pour que le traitement ne rajoute pas de bruit. On va voir que l'amplificateur, dans ce processus d'augmentation de l'énergie, va lui-même introduire son bruit, et tout le jeu va être effectivement de minimiser ce bruit ajouté. Alors, voilà une définition de l'énergie du bruit. On intègre finalement le carré du signal et la normalisation, la conversion du carré du signal en énergie va se faire en introduisant la résistance de l'échantillon, plus exactement la partie réelle de l'impédance de l'échantillon vu du port que l'on mesure. Et on définit finalement de la même façon le signal, l'énergie du bruit ici, et ce qui nous amène à définir le rapport signal sur bruit qui va être l'énergie du signal sur l'énergie du bruit. Et c'est là où intervient le lien avec la théorie de l'information. Si on a un signal dont le bruit est gaussien, qui est en général souvent réalisé, mais pas toujours, l'information que l'on extrait, au sens de l'information de Shannon, va être donnée par le logarithme en base 2 de ce rapport signal sur bruit plus 1. Donc, dans la limite des faibles rapports signal sur bruit, ce qui est en général toujours la situation que rencontre un expérimentateur, pour la bonne raison que si le signal sur bruit était rapport signal sur bruit était très grand, l'expérience aurait été en général déjà réalisée. Donc, en fait, on peut développer le logarithme, mais on voit que l'information finalement qui est acquise par ce signal est donnée par le nombre de bits extraits par la mesure va être donnée par le rapport signal sur bruit qui est en général inférieur à 1. Si le rapport il est bon de se rappeler que si le rapport signal sur bruit est égal à 1, on extrait un bit d'information de la mesure. Voilà, donc je pense que ça, c'est des rappels. Alors, le bruit, si on mesure un coefficient de transport, le bruit va constituer une gêne, mais le bruit peut constituer aussi un signal en lui-même. En fait, plutôt que de multiplier la tension aux bandes de l'échantillon par le signal sonde, on peut multiplier le signal par lui-même et donc définir ce qu'on appelle la densité spectrale du bruit. Et là, je rappelle quelques-unes de ses propriétés. Cette densité spectrale du bruit est en fait, par le théorème de Wiener-Kinchin, relié à la fonction d'autocorrélation du signal mesuré. Donc c'est là où intervient finalement cette différence. Quand on mesure le bruit, on multiplie le signal par lui-même à différents temps plutôt que de le multiplier par le signal sonde. Et pour un bruit qui est stationnaire, qui est en général un cas qui se rencontre le plus souvent, eh bien, on peut relier cette densité spectrale à la fonction de corrélation du signal à différentes fréquences. Voilà. Alors, si le système est en équilibre thermodynamique, c'est-à-dire si on ne l'a pas soumis à un forçage qu'il met hors équilibre, il peut être considéré comme en équilibre thermodynamique avec une source à température T connue, cette mesure de bruit, en fait, n'apporte pas de renseignements nouveaux par rapport à la réponse, par rapport à la mesure de la réponse du système, par rapport à cette impédance Z22 qu'on pourrait mesurer en appliquant le signal sonde au même port que le port de mesure. Parce que, le théorème fluctuation-dissipation nous dit que cette densité spectrale de bruit est en fait tout simplement la partie réelle de la fonction de réponse multipliée par une fonction universelle de la température, finalement, qui fait intervenir le rapport entre la fréquence et la température. Je voudrais introduire... Je n'ai pas précisé jusqu'à présent... très en détail si je considérais la tension ici comme une variable classique ou une variable quantique. Ici, la formule que j'indique et qui est en fait asymétrique en fréquence ici concerne la densité spectrale quantique. dans laquelle on distingue les parties positives des parties de la densité spectrale à fréquence positive ou à fréquence négative. Cette notation avec crochet, ici autour de la fréquence, signifie que la fréquence oméga peut être comprise comme positive ou comme négative. Donc positive, la fréquence positive veut dire qu'on s'intéresse, qu'on va décrire les processus suivant qu'on décrit les processus d'absorption ou d'émission de l'échantillon, la fréquence sera soit positive, soit négative. Par contre, on utilisera la convention que les processus d'émission d'énergie par l'échantillon correspondront à des fréquences négatives, alors que les processus d'absorption correspondront aux fréquences positives. C'est ce qui permet de comprendre cette asymétrie entre, la partie positive et la partie négative de la densité spectrale ici. Lorsque on est pour des énergies de quanta qui sont supérieures à l'énergie thermique. Donc, le théorème de fluctuation-dissipation indique que le bruit n'apporte pas d'autres informations que la réponse elle-même. Ceci devient faux lorsque le système est hors équilibre. Là, au contraire, la mesure du bruit, qui est en général plus difficile que la mesure de la réponse, va apporter des renseignements qu'on ne peut pas obtenir autrement, et la mesure du bruit est maintenant une mesure standard en physique mésoscopique. Pas de questions. Oui.
La formule avec le cotangente hyperbolique, est-ce que c'est valable pour d'autres systèmes qu'un oscillateur harmonique, ou est-ce qu'il faut que l'oscillateur soit harmonique pour...
Alors cette formule. Ici, non, elle est, pour un système en équilibre thermodynamique, cette formule, c'est une formule de réponse linéaire. Elle est valable si, on peut dire que le système doit être faiblement couplé à un réservoir. Il faut que cette réponse ici linéaire soit définie. Mais ce théorème est parfaitement général. Ce n'est pas, on peut, par exemple, une résistance ou une jonction tunnel sont des systèmes qui sont intrinsèquement non linéaires. Et pourtant, ils vont obéir à ce genre de relation. Alors, donc, maintenant... on va introduire une description du processus d'amplification. Donc, j'ai dit que finalement, le but de l'amplificateur, c'était de réduire, ou en fait d'éliminer le bruit dû au traitement du signal. Et on peut comprendre le remplacement du bruit du traitement du signal par le bruit propre de l'amplificateur par ce schéma idéalisé qui décrit le processus d'amplification. Alors, l'échantillon vu de l'amplificateur va finalement apparaître comme une source de tension en série avec une impédance qui va être l'équivalent thévenin de l'impédance vue du côté de l'échantillon par le port de mesure. Cette source de tension en série avec une impédance est branchée à l'entrée de l'amplificateur. On va considérer un amplificateur ici avec une entrée et une sortie. Et l'amplificateur, au minimum, doit être représenté par trois éléments. Alors, un élément de gain en tension idéale, donc cet élément va multiplier la tension à l'entrée par un facteur G, ici, G indice V. Mais cette multiplication doit absolument s'accompagner du bruit. Si le gain en puissance de cet amplificateur est différent de 1, alors il doit y avoir des sources de bruit. Alors ces sources de bruit, on les décrit par une source de bruit en tension ici. C'est plutôt physiquement une tension qui apparaît à la sortie de l'amplificateur, mais on préfère la représenter à l'entrée pour pouvoir la comparer avec une autre source de bruit qui est le bruit de l'action en retour de l'amplificateur sur le système mesuré. On va effectivement voir qu'il n'est pas possible finalement d'éliminer lors du processus d'amplification l'influence finalement de l'amplificateur en retour sur le système. C'est une nécessité imposée par la mécanique quantique. C'est finalement ce premier amplificateur qui va constituer la mesure. On va faire en sorte que son gain, ici, soit suffisant pour que le bruit des autres étages dans la chaîne d'amplification puisse être négligé. Alors, ces deux sources de bruit vont être en fait caractérisées par trois densités spectrales. Il y a trois densités spectrales. Il y a la densité propre de bruit pour chacune des sources. Il y a la source, la corrélation du bruit en courant, la corrélation du bruit en tension. Et puis, il y a une corrélation croisée entre le bruit en courant et le bruit en tension. Il peut y avoir, ces sources, a priori, peuvent être corrélées. Et donc, si on écrit l'énergie de bruit totale qui apparaît à la sortie, ici, on la ramène en général à l'entrée pour pouvoir comparer toutes les contributions ensemble. Donc, l'expression de l'énergie de bruit va faire intervenir ces trois densités spectrales. Alors, ceci intervient pour la raison suivante. Donc, le bruit en sortie va avoir deux contributions principales. Il y a d'abord la contribution directe de la source de bruit, et puis il va y avoir le bruit qui provient de cette source ici, qui va l'impédance de l'échantillon va se traduire par une tension. Donc ça va être ce premier terme ici. Et puis, le troisième terme dans cette expression peut se voir comme un terme d'interférence, un terme de corrélation entre ces deux sources de bruit. Si on commence, on peut, il y a une opération très simple pour progresser qu'il faut faire. Si on prend l'expression précédente qu'on a réécrit de cette façon, on voit que il est, à cause du signe moins ici, il est possible en fait d'optimiser la valeur de la partie dispersive de l'impédance de l'échantillon. En général, on peut toujours modifier cette impédance. On peut rajouter par exemple des éléments dispersifs comme des selfs ou des capacités de façon à annuler ce terme. Et ça définit une partie dispersive optimale qui est donné par le rapport entre la partie imaginaire de la fonction d'autocorrélation du bruit, la densité spectrale de bruit de corrélation et de la densité propre du bruit en courant. Et donc, ça permet de définir ce qu'on va appeler la température de bruit de l'échantillon, qui est donc tout simplement l'énergie de bruit divisée par 4KB. Cette énergie de bruit ou cette température de bruit va dépendre de la résistance propre de l'échantillon, de la partie réelle de l'impédance que je note ici R. Donc, si maintenant on fait varier la température de l'échantillon, et donc on va faire changer les fluctuations propres à l'échantillon, on va observer que le bruit à la sortie de l'amplificateur va se comporter de façon linéaire, mais évidemment il y a un bruit d'offset qui va être le bruit ajouté par l'amplificateur. Donc ce croisement entre cette courbe et l'axe des Y ici peut être vu comme le bruit ajouté par l'amplificateur. Et finalement, si on continue cette courbe, elle va couper l'axe des températures et définir ce qu'on va appeler la température de bruit de l'amplificateur. Cette construction permet de s'affranchir de la calibration du signal de sortie de l'amplificateur, qui est toujours un peu délicate. Donc ça, c'est une façon un petit peu ici de calibrer le bruit, de le ramener à une température effective. Si on fait varier la résistance de l'échantillon, on va obtenir en fait différentes températures de bruit. Mais avant d'indiquer ce qui se passe, je voudrais parler de ce qui va se passer dans le régime quantique, où on va refroidir la température de l'échantillon en dessous de ce qu'on peut appeler la température quantique, qui est donnée par un quantum à la fréquence du signal divisé par la constante de Boltzmann. Là, en général, on va voir que le bruit ajouté par l'amplificateur va saturer, et ça, c'est dû au fait qu'on entre dans un régime où les fluctuations de l'échantillon, elles vont être dominées par les fluctuations quantiques. Donc finalement, la température de bruit ajoutée par l'amplificateur est plutôt déterminée ici par les points obtenus à haute température. Donc si on se place à ces températures suffisamment élevées pour négliger les fluctuations quantiques, et qu'on fait varier la résistance de l'échantillon, on va voir que le bruit ajouté par l'ampli va passer par un minimum. Il y a deux contributions. Il y a la contribution du bruit en courant et du bruit en tension. Ces contributions vont avoir des variations opposées lorsqu'on va faire varier la résistance de l'échantillon. Et le minimum de cette courbe, c'est ce qui permet de définir la véritable température de bruit intrinsèque à l'amplificateur, celle qui va nous renseigner sur les processus fondamentaux d'amplification. Ce minimum va se produire lorsqu'on adapte l'échantillon à un paramètre de l'amplificateur qu'on appelle sa résistance de bruit, et qui est donné par une combinaison de ces densités spectrales. Donc ça, c'est quelque chose d'extrêmement important à comprendre. Le bruit ajouté par l'amplificateur a deux composantes, une composante finalement qui est en quelque sorte qui dépend de l'échantillon, et une composante qui est intrinsèque à l'amplificateur, qui va nous donner des renseignements sur l'efficacité du processus de mesure, et c'est le minimum de cette courbe qui nous fournit ces renseignements. Alors, le raisonnement que j'ai fait ici a négligé la résistance d'entrée de l'amplificateur pour un amplificateur de type amplificateur opérationnel que j'ai considéré. Cette résistance d'entrée peut être prise comme essentiellement infinie. Aux fréquences micro-ondes, cette résistance d'entrée ne sera pas négligeable. Il faut en tenir compte, mais mathématiquement, on peut simplement en quelque sorte l'inclure ici dans la résistance de l'échantillon. Et ce que j'ai indiqué reste vrai, même peut être facilement généralisé, même lorsque la résistance d'entrée de l'amplificateur n'est pas négligeable. Alors, ce qui est tout à fait spectaculaire, c'est que cette résistance, cette température de bruit de l'amplificateur, donc qui est finalement lorsqu'on choisit la résistance d'entrée du système, qu'on l'adapte à cette résistance de bruit, on obtient cette combinaison des densités spectrales qui fait intervenir le produit des densités spectrales en tension et en courant corrigé de la corrélation entre le courant et la tension. La valeur de ce sigma ici est tout à fait arbitraire et dépend des conventions que l'on prend pour le courant et la tension. Il s'élimine finalement lorsqu'on regarde cette température. Ce qui est absolument spectaculaire ici, c'est qu'on pourrait se dire on doit pouvoir arriver à avoir une température de bruit égale à zéro si on corrèle, si le bruit en tension et en courant ont une corrélation correcte, puisque finalement on soustrait ici la corrélation. Donc on voit qu'il n'y a aucune raison, d'après cette formule, que le bruit ne soit pas zéro. En fait, la mécanique quantique impose une corrélation imparfaite entre le bruit en tension et le bruit en courant. La tension et le courant sont des valeurs, sont des variables conjuguées en mécanique quantique, et on ne peut pas, il va y avoir forcément un défaut dans la corrélation entre le bruit en courant et en tension. Donc on ne peut pas en fait rendre le bruit égal à zéro. Et ça, c'est l'essence du théorème de Caves, qui montre que cette température de bruit ici est telle que l'énergie de bruit doit être nécessairement supérieure ou égale à l'énergie d'un demi-photon à la fréquence du signal. C'est quelque chose qui, en physique mésoscopique, est très concret. C'est loin d'être hors de portée des expériences, puisque donc maintenant les fréquences de mesure peuvent se faire aux alentours de 10 GHz. La technologie actuelle nous permet tout à fait d'atteindre ce genre de fréquence de mesure. Et si on prend cette fréquence et qu'on la convertit en température, ici ça fait 250 millikelvin, qui est très nettement supérieur à la température de base d'un réfrigérateur à dilution qui sert pour nos expériences. Donc on peut tout à fait être pratiquement dans cette limite. Et donc la contrainte imposée par le théorème de Caves est quelque chose qui est maintenant extrêmement concret. Alors, il y a plusieurs façons de comprendre ce théorème de Caves. Une façon de le voir, c'est de faire le lien avec le principe d'incertitude d'Heisenberg. Et c'est une voie qui permet de comprendre ce théorème de Caves. Une autre façon de le voir, c'est, en fait, il représente une généralisation du théorème fluctuation-dissipation. On a vu que le bruit ajouté par un élément dissipatif est finalement est relié à la dissipation. Et en fait, un amplificateur peut être vu comme un système qui généralise un système dissipatif. C'est plutôt un système dans lequel la résistance est négative plutôt que positive, mais que l'on ait une résistance négative ou positive, on va faire du bruit. Et si on doit au moins introduire un canal de bruit dans l'expérience, et c'est pour ça qu'on a cette inégalité plutôt qu'une égalité dans le théorème fluctuation-dissipation. On peut relier la réponse au bruit par une égalité. Ici, si on ne connaît pas toutes les sources de bruit, on aura seulement une inégalité. Nous allons voir dans le cours de cette année que pour certains systèmes, on est capable en fait de connaître, de faire un décompte très précis de toutes les sources de bruit et finalement d'arriver à des résultats où la température de bruit de l'amplificateur sera donnée par une égalité. Ce théorème de Caves, j'aime le comparer en fait au théorème de Carnot. De la même façon que le théorème de Carnot fixe un rendement limite à celui d'une machine thermique qui convertit finalement de la chaleur en travail, l'amplificateur peut être vu comme une machine qui convertit de l'information à basse énergie en une information à haute énergie en utilisant une source d'énergie extérieure. Et donc ce processus de transformation a aussi un rendement fini. Et c'est un peu l'esprit du théorème de Caves. Et exactement comme le théorème de Carnot, qui n'est pas du tout constructiviste, qui ne vous indique pas comment construire une machine à vapeur, eh bien, c'est pareil ici. Ça donne un étalon de mesure pour le bruit d'un amplificateur. Ça permet de comparer le bruit de l'amplificateur à une limite. Ça permet d'évaluer les performances de l'amplificateur. Mais on peut examiner cette inégalité et sans jamais arriver à comprendre comment, en pratique, réaliser un tel amplificateur fonctionnement à la limite du principe d'incertitude d'Heisenberg. Oui ? Pardon ? Alors, pour saturer, oui, justement, donc ça, c'est quelque chose qu'on va voir pendant ce cours. Pour saturer l'égalité, il va falloir limiter les canaux de bruit. On a une inégalité ici parce que a priori, on ne connaît pas tous les canaux de bruit dans l'amplificateur. Mais on sait, disons, les contraintes sur le gain vont faire qu'il doit y avoir au moins un minimum d'un canal. Et un canal va nous donner exactement H bar oméga sur 2. Donc, en fait, le jeu va consister à se limiter au strict minimum en ce qui concerne le canal de dissipatif pour l'amplification. Un amplificateur doit jeter, à un moment donné, de l'énergie. Exactement comme une machine thermique à une source froide doit jeter de l'énergie dans la source froide, l'amplificateur doit jeter de l'énergie dans un canal, il doit y avoir au moins un canal, et donc c'est le bruit de ce canal qui fournit finalement ce second membre du théorème de Caves. Un point très important ici, c'est ce théorème ici porte sur les amplis de type ampli opérationnel, c'est-à-dire des amplis qui multiplient le signal d'entrée par un gain qui est indépendant du signal. Il y a des amplis plus particuliers qui ont certaines restrictions qu'on va discuter maintenant, qui, eux, peuvent n'apporter aucun bruit. Alors, pour introduire ce genre d'ampli, il va falloir généraliser la notion de signal. Pour l'instant, j'ai parlé de signaux qui étaient soit des courants, soit des tensions. De manière générale, quand on parle aux fréquences micro-ondes, il faut introduire... on cherche à ne pas mettre ses œufs dans le même panier, soit du courant, soit de la tension. On introduit ce qu'on appelle l'amplitude des ondes qui voyagent le long des lignes de transmission. Et cette amplitude fait intervenir une combinaison linéaire entre la tension et le courant, et par l'intermédiaire de l'impédance caractéristique de la ligne. Cette amplitude d'onde est très commode puisque son carré nous donne finalement le flux d'énergie passant dans la ligne de transmission. Plus exactement, si je soustrais l'amplitude de l'onde au carré allant de la gauche vers la droite et celle allant de la droite vers la gauche, j'obtiens le flux total de puissance à travers une section de la ligne. Une petite remarque ici. Les modes spatiaux du système donc, sont en fait toujours repérés par un numéro de fil. Donc en général, on a des boîtes et on a différentes lignes de transmission. Les ondes sont repérées soit par un indice qui nous donne le numéro du port, mais ici, pour des raisons de clarté dans les expressions, je vais plutôt utiliser des lettres différentes pour les différents ports. Donc ici, pour un amplificateur qui a au moins deux ports, il va y avoir l'onde A, qui va être l'onde en entrée de l'amplificateur, et l'onde B, qui va être l'onde en sortie de l'amplificateur. En fait, il y a trois représentations principales du processus d'amplification. Donc, ce que j'ai discuté jusqu'à présent, avec cette idée de tension en entrée et en sortie de l'amplificateur, c'est ce qu'on appelle la représentation op-amp, une matrice ici des ingénieurs électriciens qui, fait correspondre la tension à l'entrée A et la courant à la sortie B avec la tension à la sortie B et le courant à la sortie A, à l'entrée A. Donc c'est une représentation mixte qui a le mérite de bien faire apparaître le gain en tension. Il apparaît aussi un autre terme dans cette matrice qui est le gain en retour. Là, jusqu'à présent, j'avais considéré que l'amplificateur était une valve parfaite. Là, en fait, on admet qu'il peut y avoir une influence de la sortie vers l'entrée, c'est ce gain en courant. Ce gain en courant, en fait, c'est quelque chose que connaissent bien les amateurs de jeux vidéo, puisque dans les manettes, disons, de contrôle à retour de force, c'est ce gain en l'équivalent de ce gain en courant qui est important, c'est ce qui vous permet de sentir avec la manette ce qui arrive au système. C'est l'action en retour, finalement, du système que vous pouvez sentir grâce à ce gain. Et d'une manière générale, comme je l'avais indiqué, il va y avoir une résistance de sortie de l'ampli et une admittance d'entrée. Alors, en plus de ces quatre coefficients qui décrivent l'amplificateur de manière générale, il va falloir donner deux bruits. Et ici, le bruit VN est défini toujours par rapport à l'entrée pour pouvoir le comparer au bruit en courant. Alors, cette description matricielle de la fonction de l'amplification a trois représentations. On peut, au lieu de donner cette matrice de l'ampli opérationnel, on peut donner une matrice admittance qui contient exactement les mêmes informations, mais évidemment avec des combinaisons différentes. Mais cette représentation d'admittance est par exemple ce qui est une représentation très utile pour décrire un transistor à effet de champ. Par contre, pour comprendre vraiment cette limite quantique des amplificateurs, c'est cette dernière représentation que l'on va utiliser dans ce cours. C'est une représentation de scattering, de diffusion, dans laquelle on va donner les ondes sortantes en fonction des ondes entrantes. Donc ça fait intervenir la donnée de deux coefficients de réflexion à l'entrée et à la sortie, et de deux coefficients de transmission qui sont le gain direct, ce TAB est le gain direct, et son carré va nous donner le gain en puissance de l'ampli. C'est le gain en puissance supérieur à 1 qui définit finalement la fonction amplificatrice. On parle d'un amplificateur lorsque le carré de ce coefficient est supérieur à 1. Et puis, ce gain en retour va être cet autre élément diagonal. Et les trois fonctions de bruit donc, que j'avais indiquées au début, ici, maintenant, vont être trois densités spectrales faisant intervenir, les ondes à l'entrée et à la sortie. Voilà comment on va décrire le bruit de l'amplificateur. Oui.
Est-ce que cette
Non, cette description est une description phénoménologique. On fait une analyse petits signaux. Donc on peut toujours... en fait, l'amplificateur est toujours utilisé finalement pour détecter des signaux très faibles. Et une considération qui est importante, qui n'est souvent pas très bien explicitée, c'est qu'on fait fonctionner l'amplificateur autour d'un point de fonctionnement et les signaux à l'entrée de l'amplificateur vont toujours être très petits par rapport aux caractéristiques de ce point de fonctionnement. Donc, l'amplificateur est un objet qui est fondamentalement non linéaire dans son mécanisme, mais la description de sa fonction, ce qu'il fait au signal d'entrée, peut être parfaitement décrit par cette analyse linéaire, qui est là complètement phénoménologique. Ce que j'indique ici, c'est qu'il y a quand même une grande richesse d'informations, puisque tous ces nombres, cette matrice et ce bruit, doivent être donnés à toute fréquence. Et c'est tous ces paramètres en fonction de la fréquence qui vont décrire l'amplificateur. Donc, ce que je fais ici, c'est une description phénoménologique de l'amplificateur. Dans ce cours, on va calculer, à partir de descriptions microscopiques de l'amplificateur, on va calculer, bien sûr, tous ces coefficients. On va calculer la réponse de l'amplificateur et le bruit. Mais pour l'instant, pour bien comprendre les contraintes qu'il y a sur le bruit, je décris simplement de manière phénoménologique ce que fait l'amplificateur. Alors, dans la représentation de diffusion, dans la représentation scattering de l'amplificateur, la façon dont il est décrit est assez différente de la représentation ampli opérationnelle. Il y a toujours deux sources de bruit et un élément idéal d'amplification, mais ils sont différents. Il faut absolument pas les confondre, parce que si on identifie certains de ces éléments aux éléments précédents, on peut commettre de graves erreurs. Donc, dans cette description, on va plutôt maintenant considérer qu'on a un amplificateur qui est adapté en impédance. C'est-à-dire qu'il a une impédance d'entrée et une impédance de sortie finie, et cette impédance est adaptée à celle des lignes de transmission. À ce moment-là, l'amplificateur est caractérisé par cet élément central qui va être un amplificateur idéal qui n'ajoute aucun bruit. Il fonctionne un peu comme une valve. Disons que la puissance est multipliée de la gauche vers la droite et réduite de la droite vers la gauche. Et il y a les deux sources de bruit en tension et en courant maintenant sont décrits par deux sources de bruit qui sont identiques, qui font intervenir des résistances chaudes qui vont introduire deux températures. Il va y avoir la température de bruit ajoutée par l'ampli qu'on peut voir placée à la sortie. Cette température de bruit, en fait, elle se trouve multipliée par le gain de l'ampli pour, encore une fois, pouvoir être amené à l'entrée et être comparé avec cet autre bruit qui est le bruit en retour de l'amplificateur. Ici, ces deux composants, ce sont des circulateurs idéaux, c'est des composants directionnels. Les ondes qui partent de cette résistance vont aller vers l'entrée ici et ne pas être traité par l'amplificateur. Donc on va au minimum avoir besoin de donner ces quatre quantités. Comme je l'indiquais, c'est le gain qui définit l'amplificateur. La température de bruit ajoutée par l'ampli c'est en général est noté TN, mais sa définition est... Oui ?
Dans le modèle, c'est pas problématique que si tu n'as pas d'adaptation d'impédance à la sortie de ton ampli, en fait, tu retrouves le bruit que tu mets en sortie qui va retourner vers l'ampli. C'est-à-dire que ce modèle d'ampli dépend de comment tu adaptes derrière.
Ah oui, non, je me place dans le cas où l'ampli est adapté en impédance à la fois en sortie et en entrée. Donc cette source de bruit, si l'impédance est adaptée en sortie, donc ce bruit va aller vers la sortie, ne va pas intervenir dans l'ampli. Si évidemment on viole cette condition, si maintenant on mettait une impédance de sortie qui ne serait pas celle de l'amplificateur, bien sûr, ce bruit ajouté va bien sûr va revenir à l'entrée, va être multiplié par ce coefficient d'atténuation et va faire partie du signal d'entrée. Mais si on s'y prend bien, à la sortie, on va, en principe, on va trouver que deux contributions, on va trouver finalement ce bruit ajouté par l'ampli et éventuellement la contribution du bruit en retour qui pourrait aller à l'échantillon qui ne serait pas adapté et qui pourrait ne pas, disons, absorber complètement ce bruit et revenir à l'entrée.
Une question.
Oui.
Le percussion, je ne sais pas comment on prononce, est-ce que c'est l'équivalent de ce qu'on appelait autrefois feedback?
Pardon.
C'est encore écrit de troisième ligne.
Oui, oui.
Percussion, est-ce que c'est l'équivalent de feedback?
Non. Il ne faut pas confondre cette action retour avec la rétroaction. L'ampli, en amplifiant, fait du bruit sur le système auquel il est connecté. C'est une influence non déterministe. Ce qu'on appelle le feedback, c'est le fait qu'on va prendre la sortie de l'ampli et la reboucler vers l'entrée. Par exemple, un exemple de feedback ici, c'est ce qui peut être produit par ce gain en retour. Ici. Donc là, on voit qu'il y a un certain nombre de paramètres concrets pour l'amplificateur. Et en plus du gain, un paramètre important pour l'amplificateur, c'est sa directionnalité. On veut que l'amplificateur soit une bonne valve, on veut que ce rapport, disons, grand G sur petit g soit le plus grand possible. Et ça va être un thème qu'on va examiner dans ce cours, parce que ce thème de la directionnalité, il fournit des contraintes. On verra que l'espace de travail, le nombre de modes de l'amplificateur doit suffisamment être grand pour pouvoir travailler à la limite quantique et en plus satisfaire ce principe de directionnalité. Donc une caractéristique concrète de l'amplificateur, c'est sa bande passante. Plus sa bande passante est grande, plus l'amplificateur traitera un grand nombre de signaux. Et donc là encore, disons, ce compromis entre bruit et bande passante sera important. Et un autre paramètre que l'on va examiner aussi, c'est l'étendue dynamique de l'amplificateur. L'amplificateur doit fonctionner à la fois pour des petits signaux, mais peut-être aussi pour des signaux plus élevés. Il ne faut pas qu'il sature trop rapidement. Alors pour donner un peu un exemple concret des possibilités des amplificateurs commerciaux, hein, ceux qu'on peut vraiment acheter, donc, ces amplificateurs commerciaux ont une bande passante de 4 GHz environ à 10 GHz et leur température de bruit est 5 Kelvin. C'est-à-dire qu'en fait, par rapport la limite de Caves, on est environ à 40 fois au-dessus de minimum possible par la mécanique quantique. Vous voyez, ces chiffres indiquent la grande motivation des expérimentateurs à construire leurs propres amplis, puisqu'on peut donc faire beaucoup mieux que les amplificateurs commerciaux. Alors j'indiquais il y a quelques minutes que le théorème de Caves ne s'appliquait pas à tous les amplificateurs. Dans la représentation du scattering, il s'applique à ce qu'on appelle les amplificateurs insensibles à la phase. c'est-à-dire des amplificateurs qui multiplient l'onde d'entrée par un coefficient qui ne dépend pas de la phase du signal d'entrée. En fait, ces amplificateurs insensibles à la phase se subdivisent entre ceux qui préservent la phase et ceux qui conjuguent la phase. Et bref, ce sont des amplificateurs dans lesquels le gain est indépendant de la phase. Il existe aussi des amplificateurs dont le gain est sensible à la phase, des amplificateurs qui vont amplifier de manière différente les deux quadratures du signal. Et pour ces amplificateurs, en fait, on peut arriver à avoir un bruit nul. C'est ce que l'on va indiquer ici. Donc, on va se placer dans une représentation de Fresnel du signal, une représentation dans laquelle le signal est un point dans le plan complexe. Ce point est entouré d'un disque qui correspond au bruit du signal. Et la longueur du vecteur de Fresnel ici, dans cette représentation, est donnée par la racine carrée du nombre de photons contenus dans le signal. Là, ce qu'on a effectué, c'est une simple normalisation de l'onde par l'énergie d'un photon. Et pour l'instant, on parle encore d'onde classique, mais l'onde quantique correspondra à prendre cet opérateur et cette amplitude d'onde et le traiter comme un opérateur. Donc, dans cette représentation, on peut voir ce que va faire l'ampli. Le signal d'entrée, ici, va être agrandi de manière homothétique. On va préserver la phase, ici, du signal. On va simplement allonger le vecteur de Fresnel par un coefficient qui est donné par la racine carrée du gain en puissance. Et l'amplificateur, donc, plutôt que de simplement d'agrandir de manière homothétique par le facteur racine de g le bruit, va en fait accroître ce bruit, et on définit ce coefficient A qui est l'air supplémentaire ajouté par l'ampli à ce disque. Et le théorème de Caves, en quelque sorte, nous dit que le bruit ajouté compté en nombre de photons, A, finalement, c'est le bruit ajouté par l'ampli dans cette représentation très commode d'un nombre de photons ajoutés, eh bien, sa valeur minimum, c'est 1,5. C'est 1,5 dans la limite des gains infinis. En fait, ce qui est intéressant ici, c'est qu'au fur et à mesure que le gain se rapproche de 1, en fait, la limite de ce bruit ajouté minimum tend vers 0. C'est normal, lorsque le gain est 1, on n'a pas besoin, il n'y a plus besoin de canal dissipatif, et finalement, le bruit ajouté peut être nul. Mais aussi, on ne fait plus rien. Cette représentation permet de bien comprendre le lien entre le théorème de Caves et le principe d'incertitude, puisque finalement, les deux composantes en phase et en quadrature du signal sont un peu comme la position et l'impulsion d'une particule dans un potentiel. Et finalement, amplifier de manière homothétique le signal, c'est-à-dire multiplier la composante en phase et hors phase du signal par le même coefficient, c'est un peu l'équivalent d'effectuer à la fois une mesure de l'impulsion et une mesure de la position en même temps. Une opération qui est finalement pour laquelle la mécanique quantique nous dit qu'elle va toujours se faire avec un bruit ajouté. Si par contre on ne mesure qu'une quantité à la fois, ce qui va être le cas des amplis sensibles à la phase, eh bien on ne va ajouter aucun bruit. Alors, j'ai replacé ici les nombres. Hein, donc, si on parle des amplis commerciaux à transistor à effet de champ, eh bien, ce facteur A ici vaut 20. Donc, on a 20 photons de bruit, soit 40 fois la limite. Et alors que nous allons voir que les amplificateurs Josephson, eux, peuvent passer en dessous de ce nombre 1. Alors, Comment voir l'action de ces amplis sensibles à la phase? Eh bien, si on prend le signal d'entrée, un ampli sensible à la phase, lui, va amplifier la composante en phase et déamplifier la composante hors phase. Il ne mesure en quelque sorte qu'une quadrature du signal. Et si on s'y prend bien, si on fait en sorte que le facteur de désamplification soit exactement l'inverse du facteur d'amplification, eh bien, cette autre partie du théorème de Caves nous indique qu'on peut arriver à faire la mesure absolument sans bruit. Donc, finalement, on retrouve ce que le principe d'incertitude nous dit. Ce qui est satisfaisant, je dois dire que, en fait, on ne rajoute pas du bruit, mais on a aussi un amplificateur moins puissant, puisque cette mesure va être utile si on connaît à l'avance, finalement, la phase du signal. Si on ne connaît pas la phase, cette mesure va, une fois sur deux, rajouter le bruit qu'on aurait de toute façon avec un amplificateur sensible à la qui préserverait la phase. Alors, une façon de voir le lien entre les amplificateurs sensibles à la phase et ceux qui préservent la phase, c'est par ce schéma. Après tout, on va ici faire un raisonnement qui est un peu analogue à celui fait par Carnot lorsqu'il considère des processus infinitésimales réversibles. On va réintroduire quelque chose un peu artificiel, mais qui va nous mettre sur la piste de l'explication de ce théorème. Après tout, puisque l'on dit que les amplis sensibles à la phase ne font pas de bruit, pourquoi ne peut-on pas finalement détecter un signal en le divisant par une lame séparatrice, en prenant ces deux composantes en phase et hors phase et en les amplifiant séparément avec ces fameux amplis qui ne rajoutent pas de bruit. C'est ce qu'on fait dans cet interféromètre de Max Zander dans lequel on a mis ces amplis sensibles à la phase qu'on a astucieusement décalés en phase de pi sur 2. En recombinant les signaux amplifiés par une seconde lame séparatrice, on doit pouvoir arriver à faire de l'amplification sans bruit. Eh bien non, puisque en fait cette lame séparatrice doit nécessairement avoir un port supplémentaire. Il est impossible de séparer un signal en deux sans introduire un port extérieur. Ce serait interdit par le principe de conservation de l'information, qui est un principe de base de la physique. On doit avoir un port caché et l'entrée de ce port est soumise aux fluctuations de point zéro. Et finalement, on peut voir le bruit rajouté dans le théorème de Caves comme la version amplifiée de ce bruit qui arrive par ce port. Alors ça, c'est un raisonnement qui permet de comprendre, qui permet de justifier le théorème de Caves, mais malheureusement, il ne va pas très loin quand on cherche à comprendre concrètement dans l'amplificateur comment se fabrique le bruit et comment justement on va pouvoir échanger, par exemple, bande passante et gain et bruit. Et donc c'est un outil intéressant, mais qui n'a pas. On va développer dans ce cours des outils plus puissants pour comprendre l'origine du théorème de Caves, enfin du bruit rajouté dans l'amplificateur. Un thème que l'on va aborder, c'est celui du lien entre la détection par un photomultiplicateur et celle par un ampli. On verra que finalement, on peut considérer qu'un photomultiplicateur, c'est un peu comme un ampli, un amplificateur suivi d'un détecteur quadratique, suivi d'une diode. Et je vais sauter les transparents qui suivent, pour lesquels je suis déjà en retard par rapport au programme. Donc je vais passer ici à ces exemples que j'avais promis d'utilisation de ces amplificateurs limités quantiquement. Ils sont basés sur les jonctions Josephson, qui sont des composants non linéaires, dispersifs. Il y a des composants non linéaires en électronique, mais ils s'accompagnent toujours de dissipation et de bruit. La jonction Josephson, c'est le seul composant non linéaire que l'on connaisse fonctionnant à basse température dans un régime où on va être dominé par les fluctuations de bruit, un composant qui va effectuer des opérations non linéaires purement dispersives. Cette jonction Josephson permet d'avoir un oscillateur LC dont la fréquence ici va dépendre de l'énergie. Et donc si par un pompage extérieur on fait varier l'énergie au cours du temps de ce résonateur, on va faire varier sa fréquence et pomper de manière paramétrique le signal. Voilà la base de ces amplificateurs. Et il y a deux utilisations principales de ces nouveaux amplificateurs, donc notés JPA, Josephson Parametric Amplifier. Donc d'une part, c'est l'amplification du mouvement d'un nanorésonateur mécanique, donc dans l'expérience ici effectuée à Boulder, dans le groupe de Konrad Lerner. Ils ont ici une espèce de corde de violon, c'est un résonateur mécanique, disons, très long et très étroit, qui vibre à proximité d'une lame de condensateur, ce qui fait varier la fréquence de ce résonateur, qui est mesuré par des techniques micro-ondes. Et là, on voit l'avantage énorme de ces amplificateurs Josephson. Par exemple, dans cette mesure du bruit en force, on voit qu'il y a plus de, disons, d'un ordre de grandeur de différence entre le bruit de l'expérience par un ampli commercial à effet de champ et celui donné par l'amplification. Donc ça, c'est ce genre de décroissance, c'est quelque chose dont rêvent beaucoup d'expérimentateurs. C'est très, très important. On voit ici le bruit en déplacement aussi, qui se trouve aussi diminué par plus d'un ordre de grandeur. Et cette expérience arrive, par exemple, à mesurer disons, le bruit de l'amplificateur, le bruit thermique disons, du résonateur en dessous de ce qu'on appelle la limite standard, qui est une limite qui est déterminée par la fréquence de résonance de l'amplificateur et disons de son facteur de qualité. Donc c'est des expériences qu'on examinera plus en détail dans ce cours. Une autre application de ces nouveaux amplificateurs, c'est la détection de l'état d'un qubit. Ici, je vais parler je vais donner l'exemple de l'expérience réalisée dans le groupe d'Irfan Siddiqui à Berkeley. Et Irfan va donner un exposé dans ce cours, dans quelques semaines. Donc, dans ces expériences, on a pris un qubit de type transmon et on le sonde par une cavité micro-ondes. Et le signal de sonde est amplifié par cet amplificateur Josephson. Et le côté spectaculaire de cette expérience, c'est qu'on arrive dans ces conditions à observer les sauts quantiques. Le système de mesure est si fortement couplé au système qu'on peut arriver à détecter le qubit effectuant une transition de l'état 1 ici dans l'état 0. Lorsqu'on prend toutes ces transitions et qu'on en fait la statistique, on retrouve le facteur T1 du qubit. C'est une expérience qui place les qubits supra un peu dans le même camp que les atomes pour lesquels ce phénomène de saut quantique est quelque chose de bien connu depuis deux décades environ. Alors, dans notre laboratoire, on cherche à étendre ce genre d'expérience avec des qubits de durée de vie plus longue. Et par exemple, notre amplificateur permet de la même façon qu'à Berkeley d'améliorer le rapport signal sur bruit. Voici par exemple un signal de rabi sans amplification. Et voilà le signal avec amplification. Il n'est pas encore. On peut avoir une réduction d'un bruit encore meilleur. Ça, c'est une première expérience. Ce qui est intéressant, c'est qu'on arrive à complètement supprimer l'action autour de l'ampli, même pour des qubits qui vivent plus longtemps que 10 microsecondes. Et donc, ceci ouvre la possibilité d'expériences dans lesquelles il va y avoir justement une rétroaction, c'est-à-dire au lieu de se contenter de sonder simplement le qubit supra et de mesurer la phase du signal réfléchi, on va prendre le résultat de la mesure et de le réintroduire à l'entrée pour justement stabiliser ces oscillations de Rabi. En principe, c'est une prédiction de Sacha Korotkov, on doit pouvoir, par ce processus de contre-réaction, maintenir en vie de façon permanente les oscillations de Rabi, se stabiliser finalement à un état dynamique du qubit. Et une des questions que l'on traitera donc, dans la deuxième partie du cours, c'est justement quelles sont les conditions de qualité sur à la fois l'amplificateur et le qubit pour que cette boucle de réaction converge. Voilà, j'arrive à la fin de cet exposé. J'ai pris trop longtemps. Je voulais, disons, dans cette introduction, vous indiquer les questions que l'on allait débattre pendant ce cours, qui sont finalement faire l'objet des différentes leçons qui sont indiquées. Le titre « Différentes leçons » sont indiquées ici. J'ai fourni là-dedans les notes, une série de références sur lesquelles sont basés ce cours et que vous pouvez consulter plus en détail. Et enfin, je voudrais annoncer la série de séminaires qui accompagnera ce cours et introduire donc l'exposé de Fabien Portier qui va nous parler de ses nouvelles expériences sur le blocage de Coulomb vu du côté de l'émission micro-ondes. Voilà, je vous remercie de votre attention.